Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, vous revenez de négociations en Nouvelle-Calédonie où vous avez mis sur la table une proposition d'indépendance association, c'est-à-dire un transfert des compétences régaliennes, l'instauration d'une double nationalité de droit et néo-calédonienne avec un statut internationalement reconnu. Votre démarche nous alarme et nous interroge bien au-delà de la Nouvelle-Calédonie. À Mayotte, comme en Polynésie et ailleurs en Outre-mer, votre proposition d'indépendance aux Calédoniens qui ont dit non, votre proposition sonne comme une alerte rouge. Les Calédoniens ont exprimé clairement, par 3 référendums successifs, leur attachement indéfectible à la République. Malgré ces votes, vous avez choisi d'offrir une indépendance déguisée. Vous avez choisi de céder aux violences et de vider les votes de toute substance. Quelle garantie pouvez-vous dès lors donner aux autres territoires ultramarins que vous ne proposerez pas l'indépendance en réponse à des émeutes, des revendications statutaires ou indépendantistes minoritaires ?
Voilà, l'inquiétude d'Estelle Youssoufa, c'était à l'Assemblée nationale, sur l'indépendance. Il y a beaucoup de Calédoniens qui craignent cette indépendance. Et on a vraiment l'impression que, finalement, il y a une voie irrémédiable, irrépressible vers cette indépendance.
Moi, comme vous nous aviez envoyé cette interview, il faut aussi écouter la réponse quand même de Manuel Valls. Et notamment, moi j'avais une question à vous poser sur ce sujet-là, parce que il lui répond en fait que l'indépendance ou la pseudo-indépendance de la Nouvelle-Calédonie fait partie, dit-il, je cite ces mots, d'un processus de décolonisation qui est considéré à l'Organisation des Nations Unies. Et donc moi j'aimerais bien que vous nous parliez de ce processus de décolonisation. Donc est-ce que ça veut dire que de toute façon, légalement et par rapport au droit international, on est obligé ou on s'est engagé à y venir, voilà. Malgré effectivement les 3 votes français qui ont été contre cette décolonisation, si j'ose dire. Mais il parle vraiment de décolonisation.
André Rouget va vous répondre, mais juste dans la foulée, j'aimerais qu'on entende François-Xavier Bellamy, c'était le 15 mai 2024, et il parlait du dégel électoral. On est exactement sur le même sujet.
Chers amis de Nouvelle-Calédonie, ce simple mot pour vous dire combien nous pensons à vous dans les heures terribles que vous traversez. Je sais que certains d'entre vous ont tout perdu, que vous avez du mal à trouver l'alimentation, les médicaments dont vous avez besoin, que beaucoup craignent pour la vie de leur famille. Et aujourd'hui, dans le moment que nous vivons, c'est notre devoir d'être à vos côtés. C'est le devoir de l'État de rétablir l'ordre public. Et pour cela, nous demandons évidemment l'état d'urgence maintenant. Il est hors de question que l'État recule. Il est hors de question en particulier qu'il recule sur ce qui est en train d'être décidé ici à Paris et que nos parlementaires ont soutenu. La Nouvelle-Calédonie a voté à 3 reprises pour dire qu'elle était française. Et aujourd'hui, le dégel du corps électoral est une nécessité parce qu'en France, il ne peut pas y avoir des citoyens de 2 catégories différentes. C'est l'égalité démocratique qui doit pouvoir s'appliquer. Il ne faut pas négocier, il ne faut surtout pas céder devant la violence. Mais il faut mettre fin à cette violence.
Voilà, alors il faut mettre fin à cette violence, on voit bien que ces deux interlocuteurs contestent en tout cas le processus d'indépendance qui malgré tout a l'air d'avancer irrémédiablement.
Écoutez, moi j'ai eu de très longues conversations avec François-Xavier Xavier Bellamy, et il n'est de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Il soutient bec et ongle l'accord de Bougival, donc c'est assez contradictoire avec les propos qu'il tient. Donc pour répondre à Philippe Charlaise, Quand ça change, ça change. Le Premier ministre et le ministre de l'Outre-mer de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella ne seront pas Michel Rocard. Et on n'est pas obligé non plus de nous en tenir à des engagements qui ont été pris il y a 40 ans. Dès lors que l'on considère que la Nouvelle-Calédonie est française et que l'on souhaite qu'elle reste dans l'ensemble français, n'y a pas de, il n'y a pas à s'engager.
Et elle a quoi comme statut exactement?
Il n'y a pas à s'engager sur le chemin de la décolonisation.
Elle n'a pas le statut.
Il y a un statut de pays et territoire d'outre-mer.
Donc ça n'est pas comme Mayotte.
Il y a une très large autonomie, comme en Polynésie française d'ailleurs. Et une fois encore, je pense et j'espère surtout que nous allons éviter le pire pour la Nouvelle-Calédonie, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, à savoir que si le texte Bougival, Élisée Oudinot a été voté au Sénat, la probabilité qu'il le soit à l'Assemblée est assez faible, et ce qui obérerait totalement la possibilité d'être voté par le Congrès réuni.
Alors Bougival,
à Versailles.
C'est le fait que d'une certaine indépendance, quoi. Hein, c'est ça, c'est un statut.
C'est la porte ouverte vers l'indépendance via le transfert des compétences régaliennes.
Il est
écrit noir sur blanc dans l'accord que une fois les transferts effectués, les deux parties constateront que la Calédonie ne fait plus partie de la France. Et cela, sans aucun référendum, sans avis du peuple calédonien, sans avis du peuple français, c'est la jurisprudence que j'évoquais des Afriques équatoriales et occidentales françaises
de
62.
Oui, de toute façon, ces terres, comme la Nouvelle-Calédonie, ne peuvent pas vivre seules. Il y aura forcément, si par malheur la France s'en allait, il y aura forcément un protecteur.
Ben
après les Chinois, bien sûr.
La Chine n'attend
que ça. Ils ne peuvent pas vivre seuls.
La Chine n'attend
que justement.
Ça. Il faut savoir que les ennemis de la France, la Russie et la Chine, se livrent à une ingérence active dans nos territoires de la France du large par l'intermédiaire d'un sous-traitant qu'est le groupe Bakou de l'Azerbaïdjan et qui se livre à des opérations de déstabilisation. Ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie, ça a été le cas en Martinique il y a de ça 18 mois lorsqu'il y a eu une agitation dans le département de Martinique. Et tout ça, pourquoi? Parce que nos départements territoires d'outre-mer, je le rappelle, regorgent de richesses.
Alors justement,
qui ont été,
André Rouget,
qui seront pour ce siècle ce que le pétrole aura été siècle dernier.
Ils regorgent de richesses, mais il faut quand même répondre à ceux qui en ont assez des dom-toms et qui trouvent que ça coûte très cher. Alors, le rapporteur spécial de la mission Outre-mer au Sénat en novembre dernier, hein, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances de 2025, disait « Le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi à Mayotte a entraîné des dégâts chiffrés à 3,4 milliards d'euros sur les infrastructures. Il faut y ajouter des pertes d'activité économique, près de 500 millions d'euros. » On n'est pas sur des petits chiffres. À La Réunion, le cyclone Garance a causé des dégâts de 850 millions d'euros. En Nouvelle-Calédonie, les émeutes de 2024 dont nous parlions à l'instant ont entraîné des destructions d'un coût supérieur à 2 milliards d'euros. Il y a des problèmes d'immigration, il y a des problèmes de sécurité. Combien coûte l'outre-mer à la France? Alors j'ai cherché les chiffres. En 2019, l'outre-mer coûtait à la France 16,7 milliards d'euros. Et dans la discussion de la loi de finances de 2026, on trouve ces mots. Le montant total des contributions budgétaires afférentes à l'outre-mer s'élève à 21,9 milliards d'euros. La question est simple. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle et pourquoi?
Écoutez, je ne sais pas qui est ce rapporteur, mais je vais être direct et cash. C'est un crétin.
C'est un crétin.
Bon nombre de ces territoires sont français depuis plus longtemps que la Franche-Comté, la Corse, Nice et la Savoie. Alors, ce même rapporteur va-t-il poser la question de savoir ce que coûtent les inondations auxquelles sont confrontés nos compatriotes à l'heure actuelle dans le sud de la France, les tempêtes qui s'abattent de plus en plus sur nos régions de l'Hexagone. Donc, je ne vois pas pourquoi ce rapporteur se pose la question concernant
des territoires qui sont français à part entière. Je vous le rappelle, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte sont des départements au même titre que la Creuse, l'Allier ou n'importe quel autre des départements de l'Hexagone. Donc, vous savez, il y a un intellectuel guadeloupéen qui s'appelle Daniel Maximin qui a eu cette phrase. Il dit... Les régions d'outre-mer, ce sont les seules régions de France pour lesquelles on demande combien ça coûte et si ça rapporte. Alors, effectivement, parce que il n'y a aucune ni visibilité ni ambition politique, à l'heure actuelle, ces territoires vivent du transfert de la métropole à 70%, mais la politique, c'est voir large et loin. Donc, comme je l'indiquais, alors, ces territoires regorgent de ressources qui pourraient non seulement financer ces territoires et leur population, mais qui, de surcroît, pourraient rapporter à l'économie nationale. Et puis, on ne va pas tirer un trait comme ça sur autant de valeur ajoutée. L'outre-mer...
Vous les défendez bien, en tout cas. Alors,
l'outre-mer, je le rappelle quand même, c'est Raymond Barre, c'est le comte de Lille, c'est Roland Garros, c'est Gaston Monnerville, c'est Félix Éboué.
Quelle entreprise exporte le nickel en ce moment?
Attendez, justement, je voulais laisser la parole à Philippe Charlez sur le nickel.
Oui, alors, bon, d'abord, je suis d'accord avec vous, hein, parce que on pourrait faire le même raisonnement en France. La Lozère, par exemple, est un département qui n'est pas très riche. Et donc, si on ne garde en France que les départements qui, finalement, sont rentables, on ne peut pas raisonner comme ça au niveau d'un pays.
On revient à la France des Mérovingiens, oui.
Je n'ai rien contre la Lozère, je prenais simplement un exemple.
Il est très riche, mon département.
Et donc, alors, du point de vue du nickel, donc, effectivement... Vous l'avez dit.
Qui exploite.
Donc il y a trois exploitants, dont le principal est la société calédonienne du nickel, ou d'ailleurs Australiens.
Le nickel peut être plus rentable qu'il
n'est. Alors, justement,
Philippe, c'est des Français, la société ou pas?
Oui, la société est française, mais avec quand même des un actionnariat étranger qui est essentiellement australien pour l'instant, pas chinois. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché mondial du nickel a été confronté à une attaque en bonne et due forme de la part de la Chine, qui a été extrêmement astucieuse et de la façon suivante. Les réserves principales de nickel dans le monde se situent en Indonésie, et il y a une dizaine d'années, l'Indonésie ne produisait pratiquement pas de nickel. La Chine a investi massivement plusieurs dizaines de milliards de dollars en Indonésie, et l'Indonésie aujourd'hui, qui a ouvert des mines en pagaille en 10 ans, produit aujourd'hui la moitié du nickel mondial, donc a inondé le marché mondial de nickel, même s'il y a une forte demande, faisant effondrer les prix au cours des deux ou trois dernières années, ce qui a rendu le nickel calédonien, qui déjà était relativement au bord de la rentabilité, aujourd'hui, en grosse difficulté. L'État français a quand même injecté 500 millions d'euros dans les compagnies, et notamment la Société Nationale du Nickel en Nouvelle-Calédonie, avec des résultats qui, pour l'instant, sont effectivement assez mitigés. Ce qui signifie qu'à mon avis, pour aller dans votre sens et développer à la fois le nickel, c'est quand même 30% des réserves mondiales, et aller énorme, au-delà, vers... tout ce qui est offshore dans les nodules métalliques, polymétalliques, effectivement investir très probablement beaucoup plus. Ça pourrait faire partie d'un plan de réindustrialisation, mais il faut y mettre le paquet comme les Chinois l'ont fait. Et la question, est-ce qu'on en a vraiment les moyens?
La question est posée, André Rouget.
Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Du national, du Rassemblement national.
Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le nickel, c'est le nœud gordien en Nouvelle-Calédonie. Il y a effectivement trois sites de production de nickel. Un site qui jouxte Nouméa, qui est géré par la société Le Nickel, dans laquelle est actionnaire Eramet, qui est une société détenue à plus de 30% par des capitaux de l'État, et le reste par un groupe privé français qui s'appelle le groupe Duval. Le groupe Prony
qui est également dans la zone sud de la Calédonie, qui est gérée par effectivement des capitaux australiens et autres. La province sud est également investisseur. Et puis le site du nord, à Cognambeau, où jusqu'à maintenant, c'était une société suisse qui en avait la gestion.
Qui s'en est un peu retiré.
Et qui est en train de se retirer. Il y a une offre de reprise, et pour l'instant, il n'y a pas d'autres repreneurs que des Chinois. Alors, rien n'est fait, mais ça fait partie, ça occupe bien mes journées, que d'essayer de trouver des repreneurs qui ne fassent pas tomber le site dans l'escarcelle. Alors, pourquoi est-ce un nœud gordien? Parce que d'abord, il n'y a aucune cohérence entre ces trois sites. La première chose à faire serait peut-être de mutualiser la production de nickel, ouais, en Nouvelle-Calédonie. La deuxième chose, dès lors qu'Eramet est au capital de la société Le Nickel, lui tordre un peu le bras pour qu'elle évite d'annoncer, comme elle vient de le faire, qu'elle allait se retirer du site de Nouvelle-Calédonie pour aller investir précisément en Indonésie, aux côtés des Chinois. Enfin, on marche sur la tête. C'est comme l'Agence française de développement qui va financer des projets concurrents à ceux des entreprises françaises.
Il y avait même pire, parce qu'à un certain moment, l'État français proposait de continuer à extraire, mais de ne plus raffiner, et de demander aux Chinois de raffiner, parce que le raffinage en Chine coûte beaucoup moins cher. Donc, ce qui veut dire laisser le loup entrer dans la bergerie.
Pareil. Alors, vous l'avez dit, il y a un sujet qui est lié au cours du nickel, mais enfin, bon, l'histoire de l'économie est là pour rappeler que les cours sont fluctuants.
Et qu'il y aura une forte demande.
À l'heure actuelle, le nickel est en surproduction. Mais dès lors que c'est un matériau indispensable à la fabrication des moteurs électriques de voitures et autres nouvelles technologies de ce siècle que nous débutons, il va y avoir un inversement de tendance à un moment ou à un autre.
55 kilos de nickel dans une batterie électrique.
Le sujet, Monsieur Charles, vous qui êtes spécialiste de l'énergie, le sujet, c'est l'énergie. Je suis allé voir, moi, la Banque européenne, la BEI, la Banque européenne d'investissement. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous pouvez faire pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai rencontré Monsieur Fayol, vice-président, qui m'a dit, bah écoutez, nous, on peut financer des études sur l'implantation de SMR, AMR, qui sont les micro-centrales nucléaires nouvelle génération.
Quel rapport avec le nickel?
Parce que il y a un problème lié à l'énergie, qui génère un coût exorbitant pour les sites d'extraction de nickel. Donc nous proposons, nous, l'implantation de micro-centrales nucléaires type AMR, SMR, nouvelle génération.
Qui serviront aussi aux particuliers, j'imagine.
Qui participeront à la production d'énergie sur tout le territoire.
Ouais.
Ensuite, nous proposons qu'il y ait une mutualisation des trois sites, de façon qu'il y ait une politique territoriale cohérente et éviter les cloche-mères économiques, parce qu'on s'aperçoit que les responsables, les élus de la province sud mettent des bâtons dans les roues du site de Cognambeau au nord pour faire la démonstration par l'absurde que les indépendantistes ne savent pas gérer. Coût de l'opération, 16 milliards. Enfin, que l'État fasse le ménage dans tous ces organismes dans lesquels il est actionnaire et qui ne joue pas le jeu du patriotisme économique. Je citais l'AFD, donc c'est vrai pour l'AFD, mais c'est vrai pour Eramet aussi.
L'Agence française de développement.
Oui, voilà. c'est vrai pour Eramet, qui va investir en Indonésie plutôt que de rester en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, dernier point, puisque je suis député au Parlement européen, je me suis aperçu que près de 90% du nickel importé dans les 27 États de l'Union européenne est d'origine
soit direct, soit à capitaux chinois. C'est-à-dire que le nickel importé dans les 27 États de l'Union est du nickel chinois. Donc il se trouve que j'entretiens de bonnes relations avec l'un des commissaires qui est Raphaël Fitto, vice-président exécutif qui a été nommé à la commission par Giorgia Meloni. Quand je lui ai dit qu'il y avait un territoire français qui avait en son sein 20 à 25% et vous dites même 30% des réserves mondiales de nickel, il avait les yeux exorbités.
Et 6%
en disant,
de la production.
Voilà. Donc il est revenu quelques jours plus tard vers moi en me disant, écoute, c'est pas dans mon domaine de compétence, il faut que tu ailles voir ton compatriote qui a la responsabilité de ce secteur, c'est Stéphane Séjourné. Depuis le mois de novembre, j'ai envoyé 3 demandes de rendez-vous à Stéphane Séjourné. Bien évidemment restés lettre morte. Cela, on crève d'un sectarisme là où devrait prévaloir l'intérêt général et national, et ce qui fait que M. Séjourné ne sert à rien pour défendre les intérêts de la France à Bruxelles, et encore moins les intérêts du nickel calédonien. Donc, il faudra avoir une vraie politique ces 3 sites de nickel.
Voilà, donc vous êtes prêt à relancer tout ça. Dernière question.
Non, moi j'ai juste ce qui vient de tomber à propos du Mercosur dont on parlait tout à l'heure, la réaction d'Emmanuel Macron qui dénonce, je cite, une mauvaise surprise et une mauvaise manière de la part de la Commission européenne. Voilà, il n'est pas content, notre président.
Il n'est pas content.
Le pauvre.
On va parler à l'instant. Merci à André Rouget pour ses éclairages, c'était absolument passionnant. Dernière question, parce que c'est une question d'auditeur qui nous dit, je lis à l'instant que l'Union européenne vient donc de se doter d'un nouvel organe bureaucratique, le Centre européen pour la résilience démocratique, officiellement destiné à protéger la démocratie contre la manipulation de l'information étrangère. Qu'en pensez-vous ainsi que votre invité ? Alors ça rejoint un petit peu notre débat de seconde partie que nous allons aborder, mais puisque notre invité est encore là, je lui pose la question.
Alors vous savez...
Centre européen pour la résilience démocratique, il faut aller l'inventer.
C'est quoi ce machin ?
À Bruxelles...
Un comité Théodule.
À Bruxelles, il y a ce que Jean Monnet... père fondateur de l'Europe, et si l'on en croit l'excellent ouvrage d'Éric Branca, qui était un agent américain, Jean Monnet.
Mais Philippe de Villiers l'a écrit aussi.
Jean Monnet parlait de l'effet d'engrenage. C'est-à-dire l'effet d'engrenage, c'est-à-dire que la machine technocratique de l'Union européenne profite des différentes crises pour petit à petit se doter de compétences qui ne sont pas dans les traités. Donc, elle a profité de l'épidémie de la Covid pour s'arroger des compétences en matière de santé. Elle s'est arrogée des compétences en matière de logement. On voit bien, à la lumière du conflit russo-ukrainien, qu'elle est en train d'essayer de se doter de compétences en termes de défense. Et puis, aujourd'hui, ces eurocrates, ces européistes, fédéralistes, ne se cachent même plus. Lors de la précédente législature, j'ai observé la publication de 3 rapports qui n'étaient pas des rapports législatifs, mais des rapports, mais dont l'un de Guy Verhofstadt, l'ancien premier ministre belge, qui parlait pour le coup de transfert de compétences régaliennes, cette fois non pas à la Nouvelle-Calédonie, mais à l'Union européenne. Les rapports de Madame Sabine Sérayen.
C'est une obsession, il transmet
les rapports
la
de Madame Sabine Sérayen, députée allemande du PPE, le groupe dans lequel siègent François-Xavier Bellamy, Cécile Imar et Nadine Morano, et qui parlait de la primauté du droit supranational sur le droit national, et un deuxième rapport révisionniste en disant qu'il fallait instaurer une histoire européenne au détriment romans nationaux de nos histoires. Donc, on est On est à Bruxelles dans 27 coups d'État permanents avec une et on observe bien qu'Emmanuel Macron cède sur tout, puisque comme je le disais tout à l'heure avant que ne débute l'émission, il est dans une logique giscardienne, il voudrait réussir là où Giscard a échoué, c'est-à-dire être le premier président de l'Europe, et pour ce faire, il est prêt à tout céder à l'Europe, et je pense que le pire est à venir, et j'invite vos auditeurs à écouter attentivement le discours qu'il doit prononcer lundi sur notre dissuasion nucléaire, parce qu'il est prêt, quitte à se livrer à une manœuvre que l'on pourrait qualifier de haute trahison si elle était avérée, il s'apprête à partager notre dissuasion nucléaire. Et la prochaine étape en sera, si ça se fait, le partage de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU.
C'est ça. Ouais, absolument.
Il n'en aura pas le temps.
Et s'il se livre vraiment à ça, Marine Le Pen a annoncé que nous demanderons sa destitution et sa traduction devant la Cour de justice de la République pour haute trahison.
Donc ça va se corser en début de semaine prochaine. De fait, j'ai publié un article qui citait Jean-Paul Garraud qui disait que le Rassemblement National était prêt à engager cette procédure de destitution du président de la République. C'est très grave, ça serait la première fois dans l'histoire du Rassemblement National, me semble-t-il. Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait eu une telle procédure d'engager.
Voilà. Ça serait la première fois dans l'histoire de la République qu'un président se livre à une opération de haute trahison.
Voilà, absolument. André Rouget, merci beaucoup. Je rappelle
merci
que vous êtes député européen, élu depuis 2019. Vous êtes le délégué national du Rassemblement National à l'Outre-mer. Vous êtes aussi le président et fondateur des ORAS, ce cercle de réflexion du parti. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous voir. Vous nous avez
éclairé
sur les grands enjeux, Quentin et notamment, et les dom-toms qui sont votre spécialité.
Merci à vous, merci messieurs.
Merci André Rouget.
Merci.
Merci de la qualité de ces échanges.
Voilà, nous allons nous poser cette question. Qui veut la mise au pas de nos réseaux sociaux? Je suis sûr que vous avez votre petite idée. Nous en parlons tout de suite.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charles, Jean-François Coulon-Desart et notre ami Gérard Cachet, voilà, au moins, comme il me tournait le dos, j'en bredouille, au moins cela a le mérite d'être clair. En avant marche Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, s'occupe aussi un peu des affaires intérieures, puisqu'il le dit sans barguiner, il a trouvé la solution pour faire face à l'international réactionnaire, ce sont ses mots, où on a peur, on est sur France Info ce 24 février et on demande à notre ministre si cet international réactionnaire pèse sur la présidentielle française. Réponse de Jean-Noël Barrot.
J'ai le sentiment qu'elle tente de le faire et je crois que notre responsabilité c'est de l'en empêcher. Et pour cela de reprendre le contrôle de notre espace public. Et cela passe par une mise au pas des réseaux sociaux qui servent en quelque sorte de plateforme à un certain nombre de ces mouvements, de ces mouvances de l'international réactionnaire pour venir perturber le débat public et venir fragiliser l'intégrité de nos processus démocratiques. Il faut bien comprendre que la démocratie repose sur un débat public intègre, vibrant, à la lumière de l'information produite par une presse pluraliste, indépendante et libre, et que tout ce modèle, ce qui fait notre fierté et qui est un trésor national, est aujourd'hui menacé. Et c'est pourquoi les règles que nous avons édictées au niveau européen doivent être appliquées avec beaucoup de rigueur et beaucoup de fermeté par la Commission européenne pour protéger nos élections. C'est vrai l'élection présidentielle, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a au moins deux élections en France qui se tiendront avant celle-ci, et elles doivent être évidemment épargnées de tout soupçon.
Alors, vous l'avez entendu, hein, beaucoup de questions autour de ces propos de Jean-Noël Barrot, donc c'était ce 24 février, c'est notre ministre des Affaires étrangères, et donc, première question, hein, je vois les mines affligées autour de la table, l'international réactionnaire cité par Emmanuel Macron et par Jean-Noël Barrot, est-ce que cela existe ou est-ce qu'on est en plein délire complotiste? Gérard Gachet, je vous sens...
Vichy, non.
Je trouve que
est-ce que vous l'avez croisé cette réaction, cette internationale?
J'en ai croisé d'autres, des internationales, mais celle-là pas encore. Mais ouais, c'est une façon effectivement de tout amalgamer et de mettre tout dans le même sac pour jeter le sac avec une pierre pour le lester dans la rivière la plus proche. Et je trouve ça extrêmement déplaisant. Donc déjà, il y a l'existence de cette pseudo-internationale réactionnaire qui reste à prouver. Et puis, deuxième chose, c'est mettre au pas les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment on fait quand une technique existe. Souvenez les radios libres, il y a 40 ans, etc., au début. On a dit, on va aller... On n'a jamais pu les encadrer, ou peut-être temporairement, mais quand une technologie existe et qu'il y a une liberté derrière, je ne pense pas qu'on arrive à juguler quoi que ce soit bien longtemps. Mmh. Et que les textes qui seraient pris dans ce sens-là, à mon avis, sont déjà voués à l'échec.
Mmh. Bah, alors, regardez, il parle évidemment
Gérard,
du DSA, etc.
Regardez, les Iraniens ont tout régulé.
Jean-François Coulon des Arts.
Ils ont tout fermé.
Là, je parlais dans un régime démocratique, ouais, pardonnez-moi.
C'est historique.
Philippe Charlès.
Hein. Je veux dire, c'est historique. Il y a eu l'imprimerie, après il y a eu le télégraphe, et puis après il y a eu la radio, la télé. Et donc, effectivement, toute nouvelle technologie... Il y a même eu, si on remonte encore beaucoup plus loin, les philosophes grecs ne faisaient que parler, ils ne voulaient pas écrire pour ne pas diffuser auprès de leurs concitoyens leurs connaissances, en disant qu'ils allaient perdre finalement et qu'ils allaient perdre finalement le pouvoir. Oui, mais au départ c'était un peu ça. Ouais. Sinon, en ce qui concerne l'international réactionnaire, là on est vraiment dans un délire de. Je me demande. Je crois qu'en fait les psychanalystes devraient avoir énormément de travail, parce que entre la menace fasciste et l'internationale réactionnaire, je veux dire, tout le monde voit des nazis partout, c'est absolument effroyable. C'est effrayant. C'est pique les virus, hein, il y en a vraiment partout. Ouais. Donc je crois que oui, il tombe aussi complètement dans la théorie du complot. Alors que certaines puissances étrangères puissent essayer aujourd'hui d'intervenir au niveau de certaines élections, je crois que c'est quand même relativement prouvé. Mais bon, je crois qu'on est quand même capable de s'en protéger. Et je suppose que Mélenchon, si le Rassemblement national est élu, il usera de ce principe et de cet argument pour faire annuler les élections.
Ouais. Alors,
donc c'est vraiment la théorie du complot, elle est partout.
Alors Barrot nous dit, j'ai le sentiment que cet international tente de peser sur la présidentielle.
Oui, c'est ça. Voilà.
Donc notre devoir, c'est de l'en empêcher. Et donc, ça justifie un certain nombre de mesures liberticides. C'est ça qui est grave.
Ah,
c'est le DSA.
Le fameux label de presse. Ça, j'ai pas bien compris comment ça allait fonctionner. Il y aurait les bons journaux. Ceux qui épousent les thèses du pouvoir, et puis les mauvais journaux, ceux qui les critiquent. J'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Maintenant, dans les propos du ministre, j'ai retenu ce mot de mise au pas. C'est pas mal, ça, comme
ça,
Gérard, vous l'avez évoqué. La mise au pas, attention, mettre au pas. Et puis, il a aussi parlé d'une presse indépendante, pluraliste et libre. Donc, il parlait pas du service public.
Ouais.
Hein, c'est bien ça.
Oui, non, mais c'est... vous avez raison. Tout est contradictoire. On a la mise au pas des réseaux sociaux, la presse libre.
Mais on retrouve dans le discours de Mélenchon d'hier, il a bien expliqué qu'il démantèlerait l'Empire Bolloré. Et que là on n'y est pas. Je suis d'accord avec vous, mais il y a derrière quand même un sentiment que certains médias pourraient être à la solde de l'étranger.
En tout cas, il y a une volonté très claire de quand il parle de mise au pas des réseaux sociaux, de caporalisation de ce qui est aujourd'hui la principale mode d'expression.
Il doit y avoir des garde-fous. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas faire preuve d'antisémitisme. On ne peut pas dire je vais tuer mon voisin. On peut pas. Il faut que ça soit encadré. Je veux dire.
Et ça ne l'est pas toujours.
Il y a des lois pour ça. Oui, il y a des lois. Il faut que ça respecte les lois. Voilà.
Oui, mais les lois, elles existent. C'est les lois de 1881. Et là, on va bien au-delà.
Mais même s'il faut adapter et compléter les lois, ça, on passe notre temps d'ailleurs à compléter des lois. Donc pourquoi pas. Mais de là à à mettre au pas.
Le mot de mise au pas, c'est fort.
C'est ça.
C'est fort.
Et il dit donc que ces plateformes, il faut reprendre le contrôle de notre espace public. Les plateformes, ces nouvelles plateformes, fragilisent notre espace public.
Et il parle de quoi? C'est Instagram, X, etc.
Il parle de X. Il parle beaucoup de X, évidemment, de Facebook, de...
Il parle pas de TikTok?
Si, bien sûr, de TikTok aussi, mais c'est surtout, X, hein, on le sait, la bête noire du pouvoir, parce que c'est un réseau qui est... de fait, ouvert à pas mal d'opinions de droite.
C'est bien Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui a donné 250 000 visas en plus, là, récemment, là, c'est bien ça.
Donc on sur les étudiants,
oui,
etc.
Voilà, c'est bien lui, qui s'en félicitait. Il serait temps que cette compétence passe sous l'égide du ministère de l'Intérieur.
Bah, c'est ce que réclamait Bruno Retailleau, et il a raison de son départ.
Il a absolument raison.
Alors, il dit que la démocratie repose sur un débat public intègre, vibrant. Alors, on voit qu'il y a quand même des contradictions.
Mais est-ce que c'est à l'État de définir qu'un débat public est intègre ou pas? C'est quand même... On arrive à des aberrations absolument totales. C'est au public, aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs de voir ce qui leur semble intègre ou pas, etc. Mais... dire que l'État va définir un débat public intègre, c'est quand même terrifiant.
Absolument. Alors, on écoute la suite que racontait notre ami Barrot.
Les règles que nous avons édictées au niveau européen doivent être appliquées avec beaucoup de rigueur et beaucoup de fermeté par la Commission européenne pour protéger nos élections. C'est vrai l'élection présidentielle, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a au moins deux élections en France qui se tiendront avant celle-ci. Et elles doivent être évidemment épargnées de tout soupçon.
Il y a des ingérences américaines sur les municipales.
Non, vous savez, nous avons depuis quelques années pris beaucoup d'avance par rapport à un certain nombre de partenaires européens pour protéger nos processus démocratiques. C'était le souhait du président de la République. Nous nous sommes dotés d'un service dédié que beaucoup de pays du monde nous envient, qui a la mission de protéger les élections contre toute forme d'ingérence. Il s'appelle Viginum et il a cette spécialité, cette expertise particulière.
Voilà, donc, vous l'avez entendu, hein, il y a des règles européennes, la Commission européenne, et il s'agit de protéger nos processus démocratiques.
Mais c'est surréaliste, ce qu'il dit.
Et nous avons donc un service dédié que beaucoup de pays du monde nous envient, et qui s'appelle Viginum.
Vous avez vérifié
Viginum.
Qu'est-ce que Viginum?
Eh bien, c'est un service, donc un espèce de site, si vous voulez, qui a pour mission, une entité administrative qui a pour mission de protéger nos élections contre toute forme d'ingérence.
Non mais voilà. Numérique.
Moi, je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu peur.
Non,
ça
mais Barrot, c'est Ponce-Pilate, là, il s'en lave les mains. C'est à la Commission européenne de faire ça. Ben. On n'est pas maître chez nous?
Ah non, mais c'est surréaliste. C'est un processus européen, mais qui est relayé en France. Voilà.
Surréaliste.
Bon, c'est quand même assez inquiétant, je trouve. Alors, tiens, puisqu'on est en train d'écouter, je voulais vous proposer d'écouter Sarah Knafo. C'était au Parlement européen sur ce sujet en décembre 2025.
Chers collègues, pour avoir écrit l'archipel du Goulag, Solzhenitsyn a dû quitter son pays et s'exiler aux États-Unis. Pour avoir contesté la colonisation britannique, Gandhi a été condamné à 6 ans de prison. Aujourd'hui, ce n'est pas à Moscou que le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté, mais chez nous, dans la France d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas à Cuba qu'Elon Musk est empêché de faire de Twitter un espace de liberté, mais chez nous, à Bruxelles, dans l'Europe d'Ursula von der Leyen. Chez nous, la civilisation qui devrait protéger la liberté d'expression, mieux qu'il l'a inventée. Chez nous, que les Européens sont muselés, intimidés, punis. Chez nous, que la droite est réduite au silence, censurée sur les réseaux sociaux, harcelée par la justice, les associations et même les banques. C'est dans mon pays, la France, que la chaîne de télévision C8 vient de se voir interdire d'émettre dans un silence quasi général. C'est dans mon pays que des jeunes influenceurs se font bannir par Instagram sans aucune explication. C'est dans mon pays, le pays des droits de l'homme, que le service public de l'audiovisuel, financé par nos impôts, décide de qui parle, de quoi on parle et comment on en parle. Pourtant, je vous le dis, on ne fait pas disparaître les opinions parce qu'on fait disparaître leur expression. Plus vous nous attaquerez et plus nous serons nombreux. Vous pouvez nous censurer, mais vous ne pouvez pas censurer le réel. Ce qu'on ne peut pas voir à la télévision par votre faute, nous le voyons dans nos rues tous les jours. Vous n'empêcherez pas les Européens de penser. Vous n'empêcherez pas les Européens de vivre. Vous n'empêcherez pas les Européens de vous dire « Nous ne sommes pas des délinquants, mais des dissidents. Nous préférerons toujours Tocqueville à Thierry Breton, Elon Musk à Ursula von der Leyen, la liberté à la censure. »
Voilà, c'était Sarah Knafaud, une envolée au Parlement européen sur ce sujet de la liberté d'expression.
La musique a été rajoutée.
Alors, c'est elle.
La musique a été rajoutée, quand même.
C'est un petit discours qui a été repris donc par Reconquête et qui a ajouté
été remaquillé,
une petite musique
d'accord, okay.
Derrière. Voilà. Mais les propos sont intéressants parce que c'est exactement ce dont on parle.
Elle a tout dit. Et puis,
elle
plus,
a quand même pas mal résumé la situation.
Elle a bien résumé, elle l'a tout dit. Elle est. Jean-François Coulon. Elle a le sens de la forme. Elle est brillante, ça c'est pas une nouveauté. Donc elle a tout dit, oui, il n'y a rien à ajouter.
Ouais,
on revient sur l'entrisme finalement, c'est-à-dire que vous avez un tel entrisme de la gauche dans les médias et dans l'expression que finalement ça pénalise fortement l'autre côté.
Mais ce qui est surprenant, là on va voir sortir les premières mesures du DSA, et je pense qu'on va entendre parler dans les jours et dans les semaines prochaines des gens qui vont être bannis de X, de certains médias qui vont être interdits, etc. On va voir le résultat de ce sur quoi travaillent Jean-Noël Barrot et d'autres depuis très longtemps.
Crions pas au loup européen. Tout de suite, on verra bien. Mais...
Oui, mais vous allez voir, il y a déjà quelques signes.
Non, Jean-Noël Barrot est quand même pas éléphiste.
Non, mais bon. C'est pire. Les macronistes, de ce point de vue-là...
Le centre mou, c'est pire que l'EFI.
Ils sont sur la liberté d'expression, ils sont absolument terribles. Terribles, il faut voir.
Le centre mou et Macron et ses hommes, ils voudraient changer de peuple. Le problème, il est là, puisque le peuple vote mal, donc ils voudraient changer de peuple.
C'est ça.
C'est très compliqué. Hein.
Entre autres. Mais là, en l'occurrence, ce qui se prépare sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le DSA, là, ce règlement européen, qui est assez terrible.
Liberticide.
Mais bon, ça passe totalement liberticide, et pour l'instant, c'est passé inaperçu. On verra, j'espère me tromper. Mais
ne faites pas l'oiseau de mauvais augure.
Gérard Gachet ? Non, qu'est-ce que vous avez pensé de cette philippique ?
Oui, non, c'était fort bien dit, fort bien exprimé, mais maintenant, il reste à voir effectivement quelles sont les mesures concrètes qui vont suivre, qui vont être proposées, si elles sont dans le domaine de l'acceptable, dans ce qu'il faut refuser absolument. Voilà, on ne peut pas...
Ne faisons pas de politique fiction.
On ne peut pas faire de procès d'intention ni de politique fiction, mais effectivement... Mais,
Il faut voir la mise en œuvre.
On peut avoir des raisons, en tout cas, d'être extrêmement vigilant.
Absolument. C'est le moins qu'on puisse dire, on reconnaît bien là la sagesse de Gérard Gachet. Voilà, allez, nous allons passer à notre clin d'œil culture, coutumier.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlès, Jean-François Coulon des Arts et Gérard Gachet. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour notre clin d'œil culture, Jean-François Coulon des Arts?
C'est moi qui commence?
Bah oui, par exemple.
Écoutez, vous avez
l'air inspiré.
Le jour où je suis devenu espion, c'est un livre d'un monsieur qui s'appelle Vincent Crouzet, aux éditions de l'Observatoire. Et dans ce livre, en fait, il est question d'opérations clandestines, de manipulation, d'apprentissage, de couverture, des légendes d'officiers traitants, d'infiltration dans les milieux criminels. Alors, Crouzet a été pendant plus de 20 ans à la DGSE. Il travaillait dans ce qui est l'aristocratie de la DGSE. Et il nous raconte tout ça. Il a été contrebandier aux côtés de Guerrieros. Il a été consultant dans les milieux diamantaires à Anvers. Il a été marchand de carburant. Bref, il a connu mille vies, que ce soit au Liban, au Congo, au Caire, au Cap, tout ça au service de la France. Et c'est passionnant à lire. Donc, si vous voulez passer un bon moment, ça s'appelle, une fois encore, « Le jour où je suis devenu espion ». Vincent Crouzet en est l'auteur et c'est publié aux éditions de l'Observatoire, qui est une bonne maison.
Voilà, le conseil est passé. Gérard Gachet.
Ah, je vais vous faire un peu frémir, parce que je vais vous parler d'un petit livre dont on a déjà beaucoup parlé, mais que je suis en train de lire avec un peu de retard d'ailleurs par rapport à sa sortie. Et je l'aurais terminé ce soir, mais donc je suis presque au bout.
Bon.
Je termine Le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy.
De notre ami Nicolas.
Il y a des côtés très positifs.
Alors, c'est très contesté.
Dans ce livre. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des côtés positifs. C'est un texte que je crois, en le lisant, et pour connaître un peu l'auteur, je crois être sincère. Il est parfois agaçant, parce que c'est aussi un plaidoyer pro-domo. Il est souvent émouvant, parce qu'il y a des aspects de la personnalité quand il parle de ses rencontres avec le prêtre, avec des trucs. Il y a des choses intéressantes. Bon. Et ça se lit en plus extrêmement facilement. Mais alors, il y a un côté très négatif. Je ne comprends pas comment un éditeur aussi renommé que le
Fayard.
Sien, qu'un,
que
Fayard, peut laisser passer. Alors, c'est sûr qu'ils ont voulu le sortir très rapidement et ils ont presque arraché les pages, parce que je suis persuadé qu'il l'a rédigé lui-même en prison, comme ça a été dit. Ça, je ne crois pas du tout à une autre écriture.
Certainement, parce que c'est sorti tellement vite.
Mais c'est
sorti de prison.
Mais
quoi.
Alors, justement, n'y a-t-il plus. Je sais bien qu'il y a beaucoup moins de relecteurs et de correcteurs dans les maisons d'édition.
Mais dire qu'il y a des fautes d'orthographe.
Il y a une faute, une seule, mais qui revient tout le temps, c'est de mélanger. Pour les verbes du premier groupe, donc les verbes qui se terminent à l'infinitif par ER, de mélanger la première personne du passé simple qui se termine par AI, avec la première personne de l'imparfait qui s'écrit AIS.
Non,
de
ah
la
oui. première personne. Ah oui, c'est AIS.
Ben non, alors je donne des exemples.
Donc je parlais.
Quand il dit au téléphone, j'appelais mes enfants, un des premiers soirs où il était en prison, c'est manifestement du passé simple, et ben ils l'écrivent AIS. Ce matin-là, je confirmais à mes avocats que ceci, que cela, je confirmais, ça devrait être AI, ils l'ont écrit AIS.
Ah oui.
Voilà, ce jour-là, il parle aussi du procès avant ce qui s'est passé, je quittais le parquet national financier Perflex, je quittais, ça devrait être AIS et AIF, enfin, il y en a presque à toutes les pages, donc je ne comprends pas comment cette faute peut être laissée dans un manuscrit dont on sait en plus le soin qu'ils ont apporté à le sortir.
Et pan sur le nez des correcteurs de Fayard.
Ouais, oui, c'est curieux quand même. Hein,
c'est un ancien secrétaire de rédaction qui se permet de dire ça. Voilà.
Oui, mais c'est quand même Fayard, c'est une grande maison. C'est la maison de pointe de la maison Bolloré, extrêmement active. Ils sortent énormément de livres
politiques, notamment.
Livres politiques.
À succès.
Ils font du bon boulot, beaucoup de succès, de fait. Voilà. Alors, moi, je voulais revenir sur un livre dont avait déjà parlé notre ami Damien Chalamel, Maître Damien Chalamel. Alors bon, c'est difficile de passer après Damien Chalamel, mais je l'ai lu après lui et je voulais quand même en dire quelques mots. Peut-être que certains auditeurs n'étaient pas là ou qu'ils en réentendront parler. C'est « Le totalitarisme sans le goulag ». C'est un essai absolument marquant de Mathieu Bock-Côté, que tout le monde connaît maintenant, qu'on n'a plus besoin de
présenter.
Notre ami québécois. voilà, dans qui a l'esprit assez agile. Et c'est un livre qui paraît aux presses de la Cité, et qui décortique de manière vraiment implacable la mécanique de ce qu'il appelle la société diversitaire, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, et qui prône la diversité à temps et à contre-temps. Et donc il dit qu'elle a besoin de la méchante extrême droite, et d'une extrême droite qui n'est jamais vraiment définie. Tout est là, en fait. Il faut pouvoir, monter un espèce d'épouvantail d'extrême droite, mais qu'on ne définit jamais très bien, et comme ça s'adapte
comme le fascisme,
à tous
pareil.
Les besoins. Voilà, hein, parce que elle doit
le fascisme, c'est plus défini, quand même.
Voilà, donc ça.
Mais dans le débat d'aujourd'hui, non, tout est fasciste.
Ben non, dans le débat d'aujourd'hui, si les pauvres, les gens de Mélenchon, si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes fasciste.
C'est exactement
ce qu'avait dit Pasolini. Les fascistes d'aujourd'hui sont les antifas, en fait. Voilà, c'est pas très compliqué.
Voilà, c'est ça. Hein, et donc là, on en est un peu là. Hein, donc c'est très commode pour les adversaires diversitaires de recourir à l'extrême droite. Et donc ça sert aussi à resserrer l'espace des libertés, hein, notamment la liberté d'expression, on en parlait à l'instant, c'est pas l'extrême droite qui nous menace, dit Bock-Côté, mais c'est la lutte contre l'extrême droite. Voilà, tout est
donc vous conseillez de le lire.
Donc je conseille absolument de le lire, c'est un livre absolument passionnant, très intéressant sur le plan doctrinal. Philippe Charlez.
J'avais pas grand chose à vous dire, sinon de rappeler ce
pas
livre
de film,
que je
pas
viens
de cinéma,
de...
vous en avez travaillé.
Sinon de rappeler ce livre que j'ai lu et terminé il y a quelques jours, donc qui s'appelle, je l'ai cité tout à l'heure, La passion de l'égalité, du philosophe belge Drieu Godfredi, et qui explique en fait que même s'il y a une différenciation et une diversité des gauches, il y a une chose qui les rassemble, c'est la passion de l'égalité.
Ouais, très, très important aussi.
Non, chers auditeurs, lisez le mien, le jour où je suis devenu espion, c'est mieux.
Restons courtois du vendredi, c'est
fini. Merci à tous dans ce studio. Merci à Jocelyn, à la technique. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux toutes petites heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile, vous le savez, qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie dans le climat actuel est un devoir. Aider Boulevard Voltaire aussi. Nous, on se retrouve le vendredi 6 mars, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30, sur Radio Courtoisie, avec toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.